VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Élection au Bénin, les Béninois ont voté dans le calme dimanche pour choisir le successeur du président Thomas Boni Yayi qui se retire après 2 mandats, conformément à la Constitution nationale. Les premiers résultats sont attendus dans les 3 jours suivant le scrutin. Le compte-rendu de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Le scrutin s'est bien déroulé, même si les électeurs déplorent par endroits l'absence des représentants des candidats.
J'ai voté dans la transparence, dans la tranquillité, dans la paix, dans la sécurité et sans aucune pression extérieure.
Je viens de voter et c'était bon, tout va bien.
Tout se passe normalement.
Le chef de l'État, Thomas Boni Yayi, a accompli son devoir civique et en a profité pour s'adresser au peuple béninois.
Notre démocratie fait un pas de plus et se trouve propulsée dans les grandes démocraties de cette planète.
Lionel Zinsou félicite quant à lui la maturité du peuple béninois dont la clairvoyance aura permis le calme observé durant le scrutin.
Et j'ai été aussi très frappé par la ferveur de nos populations pour la démocratie, un désir de transparence et de paix dans ces élections qui était vraiment universel.
Les candidats espèrent la vérité des urnes pour la sauvegarde de la paix et de la quiétude nationale. Marcel de Souza et Christian Lahindé sont tous deux présidentiables.
Que ça soit une fête et que le meilleur gagne et que le choix soit respecté dans la transparence.
Le vainqueur de cette élection, et je le souhaite du fond de mon cœur, que ce soit le développement du Bénin.
Les regards sont donc tournés vers la commission électorale qui fera une course contre la montre afin d'éviter un vide juridique puisque la Constitution exige que le nouveau président soit investi dans ses fonctions le 6 avril. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Fin de la visite au Mali des représentants des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Les diplomates disent avoir noté l'engagement de toutes les parties impliquées dans le processus de paix. Ils ont eu des consultations avec les autorités maliennes, dont le président Ibrahim Boubacar Keïta, et aussi les groupes armés. Et avant de partir hier, ils ont réitéré l'appel de l'ONU en faveur d'une accélération de la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Les points forts de la visite de la délégation du Conseil de sécurité avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Mopti, l'entrée du désert malien ou la Venise a été la première étape de cette visite du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ici, les échanges avec les autorités de la ville et la société civile étaient consacrés à la sécurité. Boukari Koïta, chef de cabinet du gouverneur de Mopti.
Donc ça veut dire que le règlement de la crise malienne intéresse au plus haut point le Conseil de sécurité. Et aujourd'hui, le fait d'être à Mopti va droit au cœur des populations. Sauront aujourd'hui que le Conseil de sécurité veut vraiment ramener la paix et la cohésion dans notre pays.
À cette table d'échange, il y avait le commandant de la région militaire de Mopti, le colonel Daoud Ali Ould Mohamedine.
Je me dis que le Conseil de sécurité s'est déplacé, pouvait rester à New York, mais venir sur le terrain, comme on le dit, voir une fois vaut mieux que d'entendre 1000 fois. Donc en venant nous voir, ça nous rassure et nous savons aussi que nous avons des gens qui sont à notre écoute.
Tombouctou était la deuxième étape de cette visite, une étape qui était sous haute surveillance sécuritaire. Cette visite du Conseil de sécurité des Nations Unies au Mali se tient à la veille du débat pour le renouvellement du mandat de l'AMINUSMA et à la veille de la publication du rapport du secrétaire général des Nations Unies. Cela ne peut pas être un fait du hasard, nous a confié un officiel. Kassim Traoré, de retour de Mopti et Tombouctou, VOA Afrique.
Au Nigeria, Alex Badé, ancien chef d'état-major des armées, placé en détention provisoire. Il avait été arrêté fin janvier dans le cadre d'un détournement présumé de 18 millions d'euros en 2013, une affaire dans laquelle il avait plaidé non coupable.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant au Congo-Brazzaville. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 20 mars a démarré depuis vendredi. Et ce week-end, la plupart des candidats ont commencé leurs meetings électoraux. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui a toujours des ennuis avec la police, souligne son intention de participer malgré tout au scrutin. Plus de détails avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Démarrée dans une timide ambiance, la campagne électorale va entrer dans une phase importante aujourd'hui lundi. Mais déjà, annonçant les couleurs, le général Jean-Marie Michel Mokoko, malgré ses déboires avec la police, a déclaré que le vote aura bel et bien lieu, quelles que soient les conditions d'organisation du scrutin.
J'étais dans un statut qui ne me permettait pas de m'insérer dans un débat congolais. Les forces sociales et les forces politiques ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Malheureusement, le gouvernement de la République est resté sourd.
Sassou Nguesso, le président sortant, a choisi, lui, comme en 2009, la ville de Pointe-Noire pour présenter son nouveau projet de société, la marche vers le développement. S'exprimant en Kitouba, la langue des Ponténégrins, il a promis de créer des emplois pour les jeunes et construire un nouveau barrage hydroélectrique, celui de Sunda, 1000 MW.
Nyanya! Nyanya! Benetala!
Dans ce nouveau projet, nous allons renforcer la formation professionnelle des jeunes pour résorber le chômage. À Maluku, par exemple, nous avons créé 3000 emplois, mais il manque des jeunes qualifiés. Nous avons décidé de construire le barrage de Sunda pour accomplir notre vision de boulevard énergétique. L'un des rares candidats ayant débuté tambour battant sa campagne électorale, Joseph Kinyumbi Kiambungo, qui revient pour la troisième fois après 2002 et 2009, propose de gouverner autrement.
Que l'hôpital soit le plus proche possible du malade. Et je voudrais que lorsque nous allons regarder, une fois élus, les problèmes des jeunes, c'est d'abord leur formation, être bien formé.
La campagne électorale va se poursuivre jusqu'au 18 mars prochain. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Tchad, élection présidentielle le mois prochain, mais le Conseil constitutionnel n'a toujours pas rendu publique la liste définitive des candidats. Ceux qui ont vu leur candidature rejetée jusqu'à présent parlent d'injustice. De N'Djamena, notre correspondant André Kodmajinga.
Ce suspense serait dû au fait que le Conseil constitutionnel n'a pas encore fini de statuer sur une dizaine de requêtes introduites par les candidats dont leurs actes de candidature ont été rejetés. Le député fédéraliste Ngarledi Yurungar fait partie de ceux n'ayant pas été autorisés par le dit Conseil à participer à cette élection. On lui reproche de n'avoir pas joint l'emblème de son parti et sa photo au dossier. Ngarledi Yurungar n'est pas encore situé sur son sort.
Je suis serein parce que j'ai été candidat. Trois fois, cette fois-ci, c'est la quatrième fois, je n'ai jamais produit ni logo, ni photo. La photo et le logo relèvent de la CENI qui édite les bulletins de vote, les spécimens. C'est pas le Conseil constitutionnel.
Le constitutionnaliste indépendant professeur Ahmad Mahamat Hassan invite le Conseil constitutionnel à être véritablement indépendant que de prendre des décisions tendancieuses.
Le Conseil constitutionnel, dans le cadre du rejet d'une candidature uniquement pour la question de l'emblème, je suis désolé, c'est une lecture soit tendancieuse, intentionnellement voulue, parce qu'il y a quand même des grands juristes dans le Conseil constitutionnel. Et ça, c'est une erreur qui est malheureusement fatale et préjudiciable pour beaucoup de Tchadiens.
André Kodomadjingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique du Nord maintenant, en Tunisie, au moins 28 djihadistes, 10 membres des forces de sécurité et 7 civils tués aujourd'hui à Ben Gherdan, localité proche de la frontière avec la Libye. Le bilan est encore provisoire et les frontières entre la Tunisie et la Libye ont été fermées. Miley Segal.
Ces attaques terroristes ont été perpétrées à l'aube et ont visé une caserne de l'armée, un poste de police et de gendarmerie à Ben Gherdan, une localité de 60 000 habitants. Un couvre-feu a été instauré et les patrouilles terrestres et aériennes vont être renforcées le long de la frontière avec la Libye, qui a été fermée pour une durée indéterminée. Ces attaques sont d'une ampleur inédite et interviennent moins d'une semaine après de premières heures armées dans cette même région. 5 extrémistes venus de Libye, dont au moins 4 d'origine tunisienne, avaient été tués par des unités de l'armée alors qu'ils étaient retranchés dans une maison. Le ministère de l'Intérieur avait, de son côté, évoqué la possible entrée sur le sol tunisien de groupes terroristes à la suite d'un raid américain le 19 février contre un camp d'entraînement du groupe État islamique à Sabrata, dans l'ouest libyen, à moins de 100 km de la frontière tunisienne. Un bombardement qui avait fait des dizaines de morts. La Tunisie, qui compte plus de 5000 ressortissants dans les rangs d'organisations djihadistes à l'étranger, exprime régulièrement son inquiétude à propos de la situation en Libye.
En Égypte, 2 policiers tués aujourd'hui suite à l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule blindé dans le Sinaï. Le groupe État islamique, très actif dans la région, est pointé du doigt. Et puis, conflit en Syrie, l'opposition syrienne a accepté de participer aux négociations de paix prévues cette semaine à Genève sous l'égide de l'ONU. Les opposants avaient ces derniers jours exprimé des réserves quant à leur participation, invoquant notamment un manque de progrès au niveau du dossier humanitaire. Et pour terminer, en Allemagne, le prêtre catholique Olivier Ndjimbi Chiende, originaire de la RDC, a démissionné de sa paroisse en Bavière à cause du climat de haine. Il dit avoir reçu des menaces de mort et subi des insultes racistes pour avoir pris la défense des immigrés et des demandeurs d'asile. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre, bien sûr, sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.